Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
J'écoute.
Non, déjà là, ils sont en stress.
L'est-il ?
Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez.
J'ai
pas compris.
Bonjour à tous, vous avez bien compris, bienvenue dans Le Monde vous parle, l'émission qui traite de toutes les actualités, parce que quand Le Monde vous parle, ce n'est jamais pour ne rien dire.
Je vous ai compris !
Aujourd'hui, le monde nous ment. Oui, une fois encore. Cette semaine, en France, de nombreuses fake news se sont répandues sur les réseaux sociaux et parmi les hommes politiques. Le sujet est un peu surprenant puisque nous parlons du traité d'Aix-la-Chapelle, signé cette semaine entre Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel. Un traité censé sceller plus encore les liens entre nos deux pays. Un sujet surprenant, disais-je, car ce texte n'est pas contraignant, pas d'obligation. Il reprend les tendances d'un accord plus ancien, celui de l'Élysée, qui date de 1963. Bref, un texte qui a finalement peu d'intérêt et une portée davantage symbolique. Et pourtant, les fake news ont réussi à s'instiller dans le débat. Pour résumer, certaines personnes, dont Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan en premier lieu, assurent que ce texte s'attaque à notre souveraineté au profit de l'Allemagne. Entendez, ils veulent nous prendre l'Alsace et la Lorraine. Mais que dit le texte ? Il fixe plusieurs grandes tendances pour continuer le rapprochement entre les deux pays. Par exemple, encourager la convergence économique en ayant pour objectif de créer une zone économique franco-allemande. Un conseil franco-allemand d'experts économiques sera mis en place pour que nos politiques économiques soient en accord l'une avec l'autre. On y trouve également des mécanismes administratifs pour faciliter le développement de projets transfrontaliers, notamment en Alsace, mais il n'est en aucun cas question de céder la souveraineté de la région à l'Allemagne. Un autre gros sujet a aussi été la cible de nombreuses fake news et il concerne l'ONU. Le traité inscrit une volonté commune de se mobiliser pour que l'Allemagne ait son propre siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Rappelons que ces membres sont les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Or, de nombreuses personnes affirment que le traité d'Aix-la-Chapelle prévoit que France et Allemagne partagent ce siège de membre permanent, ce qui est une nouvelle fois une fausse information. Mais de manière plus générale, que nous apprend ce sujet sur les fake news ? Eh bien qu'il faut toujours replacer une information, une affirmation, dans un contexte. Dans notre cas, quel est-il ? C'est un contexte d'élection, les élections européennes. Et si Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan se saisissent de ce sujet, ce n'est pas pour l'intérêt fondamental qu'ils portent à ce texte, mais parce qu'il peut servir leur cause. Leur programme pour les européennes se base sur le rejet d'une Union européenne qui affaiblit la souveraineté des États, dont la France. Un traité sur le rapprochement entre la France et l'Allemagne est donc l'occasion rêvée pour agiter la peur de voir la France être engloutie par d'autres instances. Ces déclarations de Marine Le Pen doivent donc être replacées dans ce contexte d'élection avant de pouvoir juger si elles sont vraies ou non. Le monde nous ment, certes, mais nous devons refuser de le prendre pour acquis pour rester libres de nos pensées. C'est d'ailleurs ce vent de révolte que nous entendons souffler au Venezuela. En milieu de semaine, une déclaration inattendue est venue de l'opposition au président actuel Nicolas Maduro, une déclaration de Juan Guaido, le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne qui s'est autoproclamé nouveau président du Venezuela. Pour comprendre cette actualité, il faut étudier le paysage politique actuel au Venezuela. Dans le pays, l'Assemblée nationale est passée sous le contrôle de l'opposition à Maduro en 2015. Mais pour ce président, dont les accès d'autoritarisme se multiplie, une telle chose ne pouvait se faire. On a donc vu au fur et à mesure le tribunal suprême vénézuélien, la dernière instance législative, invalider toutes les lois et décisions que prenait ce parlement d'opposition. Plus encore, en 2017, une assemblée nationale constituante s'est créée pour concurrencer l'assemblée nationale et sa légitimité. Cette constituante, très largement acquise au président Maduro, vous l'imaginez bien, s'est donc arrogée le pouvoir législatif. Et vous comprenez alors ce qui a poussé l'opposition politique à contester la légitimité d'un tel mode de gouvernement. L'objectif de Juan Guaido, le président autoproclamé, est de former un gouvernement de transition le temps d'organiser de nouvelles élections présidentielles libres cette fois-ci. Et Juan Guaido n'est pas le seul dans cette lutte puisque de nombreux pays ont soutenu son initiative et les premiers d'entre eux ont été les États-Unis. Depuis le début de son mandat, Donald Trump n'a cessé de critiquer le gouvernement de Nicolas Maduro et ses entraves aux droits de l'homme, le menaçant même d'une intervention militaire américaine. Le Venezuela a donc répondu en rompant ses relations diplomatiques avec les États-Unis, mais à jeu-là, ces derniers ont une longueur d'avance. Le Venezuela est un pays qui tire la très grande majorité de ses revenus du pétrole et c'est d'ailleurs parce que le cours du baril a chuté que le Venezuela a été dans une crise économique si importante. Or, plus de 90% des recettes pétrolières du pays sont assurées par les États-Unis. Maduro se retrouve donc démuni dans cette situation qui, en cas d'embargo américain sur le pétrole, ferait plonger l'économie du pays. Et il est également bien seul car de très nombreux pays d'Amérique latine ont soutenu le président président par intérim Juan Guaido. Seul le Mexique continue de soutenir Maduro. Cette situation politique est bien compliquée et ne semble pas prête de s'éclaircir. Le monde prévient qu'aux injustices, c'est la colère qui répond. Et la plus grande des colères de notre temps pourra certainement surgir des profondeurs des inégalités. C'est l'ONG Oxfam qui a publié son rapport 2018 sur ce sujet qui nous prévient. En 2018, 26 personnes milliardaires détenaient autant de richesses que les 3,8 milliards d'hommes sur Terre les plus pauvres. Ils étaient 43 en 2017. Les riches sont de plus en plus riches. Et une des raisons que pointe ce rapport est la baisse de l'imposition maximale des plus riches. L'ONG donne l'exemple des États-Unis. En 1980, le taux d'imposition le plus haut des riches américains était de 70%. Aujourd'hui, il est de 37%, soit deux fois moins. C'est Warren Buffett, le milliardaire et troisième fortune mondiale, qui disait que son taux d'imposition en pourcentage était moins important que celui de sa secrétaire. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres le sont toujours. Le monde se mobilise en grande pompe pour crier la douleur des plus démunis et pendant ce temps, à l'ombre d'un palmier, les bien lotis bénéficient des largesses d'un système qui semble indéboulonnable. Et pour terminer, comme souvent, éloignons-nous de ce marasme pour regarder vers le haut, parlons d'espace. Cette semaine, c'est l'Europe et son agence spatiale qui annoncent vouloir amener l'homme sur la Lune. C'est certes 50 ans après la mission Apollo 11 et le premier pas de l'homme sur la Lune, dont nous fêterons l'anniversaire cette année, mais l'espace est grand et chacun y a sa place. C'est Ariane Group qui mènera la danse et sera chargée de transporter les astronautes. La perspective annoncée est un départ à l'horizon 2025. Peut-être verrons-nous le Français Thomas Pesquet à son bord. Lui qui, cette semaine, annonçait vouloir retourner dans l'espace d'ici quelques années. Thomas Pesquet, vitrine d'un mec cool qui véhicule l'admiration pour beaucoup de gens qui, pour oublier la petitesse d'esprit du bas monde, voient plus grand, loin vers les immensités du ciel. Voilà ce que le monde avait à nous dire et ce n'était pas des paroles en l'air. Et n'oubliez pas que le plus important n'est pas de comprendre, mais de s'intéresser.